affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, chers auditeurs, bonjour et merci d'être à l'écoute de Canal Académie. L'émission de ce jour nous conduira, une fois n'est pas coutume, vers la Côte d'Azur, plus de 100 ans en arrière, à la Belle Époque. Cette période d'avant-guerre marquée dans notre imaginaire du sceau de l'insouciance, de la joie de vivre, de la confiance dans le progrès, confiance couronnée alors par l'exposition universelle de 1900. Mais c'est aussi l'époque de découvertes archéologiques majeures, notamment en Grèce, qui plus que jamais font se tourner les élites, à la fois cultivées et fortunées, vers l'Antiquité. La Riviera française, en même temps qu'elle devient terre d'adoption des grands de ce monde, donc vedettes, artistes, écrivains, mais aussi personnalités politiques, acteurs majeurs de la finance internationale ou encore mania de la presse, cette Riviera voit s'élever de magnifiques villas, et certaines d'entre elles sont la traduction directe dans la pierre de cette passion pour la Grèce antique. Donc nous songeons bien entendu à l'exceptionnelle Villa Kérylos de Beaulieu-sur-Mer, réalisée entre 1902 et 1908 par l'architecte niçois Emmanuel Pontremoli, à la demande et sous la direction de Théodore Reynac, homme politique, mécène fortuné, mais aussi savant et brillant helléniste, membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Conçue à la fois dans son architecture et dans sa décoration comme un véritable hommage à la Grèce ancienne et à l'humanisme classique, la villa fut léguée à ce titre en 1928 à l'Institut et accueille aujourd'hui nombre de manifestations scientifiques et culturelles. Alors je m'empresse aussi de préciser qu'elle est ouverte au public et j'invite bien sûr tous les auditeurs qui en auraient la possibilité à la visiter. À beaucoup d'égards, la Villa Kérylos est unique en son genre. Elle se voulait en effet non pas un simple pastiche, une pâle imitation, mais plutôt une incarnation vivante de l'esprit antique, agrémentée de références archéologiques très précises, tout en étant adaptée à la vie et aux aspirations modernes. Pour autant, malgré la singularité qui la caractérise, elle semble avoir largement inspiré, peu de temps après son inauguration, la réalisation d'une autre demeure dite « à la grecque », située à Kabdaï, dénommée alors la Villa du Sphinx et appelée de nos jours « Villa Primavera ». Cette villa est beaucoup moins célèbre que la Villa Kérylos, mais nous allons avoir la chance de la découvrir en compagnie d'Henri Lavagne. Henri Lavagne, bonjour, bonjour et merci d'être parmi nous. Vous êtes historien de l'Antiquité, membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres depuis 2006. Ancien élève d'une école normale supérieure, ancien membre de l'École française de Rome, vous avez été aussi directeur d'études à l'École pratique des hautes études, où vous avez enseigné l'histoire de la Gaule romaine. Vous êtes aussi l'un des plus grands spécialistes de l'histoire de la mosaïque, à laquelle vous avez consacré un ouvrage dans la collection « Que sais-je ». Vous vous êtes enfin particulièrement renseigné sur cette villa du Sphinx, appelée aujourd'hui Villa Primavera, à laquelle vous avez consacré une allocution lors d'un colloque de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres dédié au thème de la Grèce antique dans la littérature et les arts, de la Belle Époque aux années 30. Alors avant d'évoquer la genèse de cette villa à l'architecture étonnante, pouvez-vous d'abord nous la décrire, nous dire comment elle se présente aux visiteurs, de sorte que les auditeurs puissent en faire une représentation?
Oui, la Villa Primavera, et qui s'appelait autrefois la Villa du Sphinx, se recommande, si l'on peut dire, par le ou les grands sphinx qui se trouvent à l'entrée de cette villa. Quand on descend par la moyenne corniche et qu'on va vers Monaco, elle se trouve environ à 3 km de l'entrée de la principauté de Monaco, vous avez donc cette grande villa qui est précédée par 4 colonnes portant 4 sphinx. En réalité, à l'origine, il n'y avait qu'un seul sphinx, dont nous parlerons peut-être, qui était le sphinx qu'on appelle le colosse des Naxiens, une offrande de la peuplade des Naxiens à Delphes. Mais un des architectes, sans doute au cours du temps, avait en quelque sorte dédoublé ou quadruplé les sphinx qui sont maintenant devant la grille. Donc, on ne peut pas manquer de la voir quand on passe sur la moyenne corniche. On ne peut jamais s'arrêter parce que la circulation est effrayante et il n'y a pas de parking, donc on ne peut pas s'y arrêter. Mais on reconnaît cette grande villa à ces sphinx qui sont uniques sur la Côte d'Azur. Et en plus, elle a une magnifique vue sur la mer. Elle domine de toute sa hauteur, qui est 4 étages. Elle domine la mer et on voit d'un côté le rocher de Monaco et de l'autre la baie de Beaulieu-sur-Mer.
Donc, en quelle année fut-elle édifiée et quel commanditaire fut à l'origine de sa construction ?
Alors, le programme de construction a commencé en 1912. Et à ce moment-là, il faut bien dire que le terrain était encore vierge. La moyenne corniche n'était pas encore tracée. Il y avait un sentier muletier et le terrain qui s'étendait là était un terrain, on peut rêver à ça, avec des oliviers qui appartenaient au curé du village. Et lequel curé du village s'est dit « je vais vendre mes 4 oliviers qui sont là » à un propriétaire riche de Paris qui vient s'installer sur la Côte d'Azur. Nous verrons peut-être pourquoi il venait s'installer sur la Côte d'Azur, mais c'était un Parisien à l'origine qui s'appelait Alphonse Lenoir.
Alors, pouvez-vous nous dresser un portrait de ce personnage, donc Alphonse Lenoir, dans le contexte de son époque? Était-il lui aussi un savant, un érudit ou un simple amoureux de l'Antiquité?
Lenoir, c'est un personnage très curieux, complètement oublié aujourd'hui. Personne ne connaît le nom d'Alphonse Lenoir, mais qui a défrayé la chronique dans les années 1900 et jusqu'à sa mort en 1915. Et c'est un personnage double, très intéressant en ce sens qu'il est à la fois un érudit, un amateur de la Grèce, très bon connaisseur des textes antiques et spécialement des Grecs et des Latins, sa correspondance le montre très bien, alors qu'il a fait simplement des études secondaires tout à fait normales et classiques en Normandie au lycée de Caen. Mais il a une passion de la Grèce qui est tout à fait extraordinaire et il a en quelque sorte entretenu cette passion par des voyages en Italie. En particulier, nous savons qu'il a été à Naples, qu'il a été un grand connaisseur du musée de Naples et qu'il avait fait faire des meubles comme Akérilos l'avait fait avant lui, Théodore Rénac. Il avait fait faire des meubles copiés sur des meubles qui se trouvaient au musée de Naples. Ça, c'est le personnage, je dirais, le plus classique, le plus proche de nous, le plus proche de l'érudition gréco-romaine, mais c'est aussi un homme politique de premier plan qui a eu un rôle absolument considérable juste avant la guerre de 14 et dans cette période dangereuse qu'on a appelée quelquefois la montée des périls, même si ce terme de la montée des périls a été appliqué, hélas, à la guerre suivante. Et pourquoi ? Eh bien, parce que ce personnage de Lenoir est un agent de publicité. Un agent de publicité dans la presse, ce terme, qui est un terme de l'époque, cache en réalité une fonction tout à fait particulière. Il y avait des gens qui servaient d'intermédiaires entre les hommes politiques et les journaux et qui stipendiaient, il faut bien le dire, les journalistes pour faire des campagnes. Alors, ce pouvait être des campagnes de diffamation, ce pouvait être des campagnes pour sauver l'honneur de quelqu'un, ce pouvait être aussi des campagnes à but politique. Et donc, ces personnages de courtiers en publicité, comme on les appelait aussi, se présentaient dans les grands journaux de l'époque et achetaient, en quelque sorte, la plume de journaliste pour répandre la bonne parole. En particulier, on le sait, c'est Alphonse Lenoir qui a lancé l'emprunt franco-russe. Et ça, c'est très important parce qu'en 1904, l'emprunt franco-russe ne démarrait pas du tout. Le gouvernement français était très ennuyé parce que personne n'achetait les emprunts russes. Et on avait confié la mission à Alphonse Lenoir d'acheter les plumes de quelques journalistes dans les journaux pour lancer enfin cet emprunt. Et c'est grâce à lui que l'emprunt franco-russe a marché admirablement. Donc il pouvait avoir des fonctions, je dirais, politiques. Il a joué un rôle un petit peu plus tard alors, dans les courants pacifistes de l'époque. Au fond, il a été l'homme lige de Joseph Caillaux, qui est le grand homme de l'époque, qui est le grand président du Conseil de l'époque, pendant quelque temps, et qui, lui, était convaincu qu'il fallait éviter la guerre à tout prix. Et Lenoir est même entré au ministère de l'Intérieur. Il avait une fonction officielle pour aider Caillaux Caillou n'a pas été très honnête avec lui. Il a dit que ce n'était qu'un courtier de publicité du ministère. Mais en fait, il avait bien une fonction officielle. Et nous savons par des textes d'archives recueillis en Allemagne que c'est Alphonse Lenoir qui était envoyé par Caillou pour négocier directement avec le ministère allemand, la Wilhelmstrasse, comme on disait, et qui a en particulier eu un rôle déterminant dans l'affaire d'Agadir et dans le moment le plus crucial des relations franco-allemandes avant la guerre de 14. Et cette époque, en 1905, c'est lui, Lenoir, qui est allé, au fond, apaiser les Allemands. Et il les a apaisés d'une façon qui était bien à lui, c'est-à-dire que comme il était très lié avec les milieux boursiers de France et d'Allemagne, il a suscité une sorte de mini-panique à la Bourse de Berlin. Et les financiers de Berlin se sont précipités au ministère et ont demandé à voir le Kaiser en disant « Écoutez, n'entamez pas ces hostilités avec la France qui commence à se préciser à l'horizon parce que nous avons besoin que la vie économique de l'Allemagne continue. » Et par conséquent, on est à peu près sûr que c'est grâce à Lenoir et derrière lui grâce à Caillot que l'affaire de la panthère d'Agadir, que vous connaissez bien, s'est soldée par des concessions en Afrique pour l'Allemagne, tandis que la France gardait les mains libres au Maroc. Donc vous voyez un personnage tout à fait sulfureux qui a accumulé une fortune considérable. J'ai là les chiffres que j'avais notés. En 1914, juste avant la guerre, Lenoir a une fortune estimée à 32 millions de francs or.
Donc un personnage à la fois très influent, très riche, et qui entend, une fois sa fortune bien assise, se consacrer entièrement aux lettres qu'il aime avec passion.
Alors entièrement, là, je vous arrête, je ne
c'est
crois
lui
pas...
C'est lui qui l'écrit.
Oui, c'est lui qui l'écrit, et il le dit à son ancien professeur de lettres classiques du lycée de Caen. Il le dit, mais en réalité, je ne sais pas s'il avait l'âme aussi dégagée de contingences matérielles. Bien sûr, il a l'idée de dépenser son énorme fortune en construisant cette magnifique villa. Mais il était loin d'avoir, lâché toutes les questions politiques. Et nous le verrons peut-être tout à l'heure, c'est lui qui va être partie prenante dans la fameuse affaire du journal, le journal qui était le grand quotidien de l'époque, qui tirait à 1 million d'exemplaires. Vous vous rendez compte, c'était un immense journal, le journal. Et il était à vendre, et c'est lui, Lenoir, qui s'est entremis pour acheter ce journal. On pense qu'il l'a acheté en réalité sur les ordres de Caillot et grâce à des combinaisons financières qui étaient organisées par derrière, par Joseph Caillot lui-même. Je dis cela parce que les traces d'archives et de lettres qui l'indiquent ont été très bien explorées par, dans un livre, pas tout à fait récent, mais enfin qui a une dizaine d'années, de Jean-Denis Brodin, vous savez, qui est professeur aux sciences politiques et à Paris-Sorbonne, à Paris 1, et qui a bien montré que, véritablement, Caillot était derrière avec une politique non interventionniste, une politique pacifiste, et que l'affaire du journal a été montée par lui.
Très bien. Alors pour en venir à la Villa Primavera, on peut considérer que c'est un petit peu le rêve quand même de sa vie, de la fin de sa carrière. Pouvez-vous nous dire à quel architecte il fit appel et à quel décorateur aussi?
Alors le problème de l'architecte me paraissait simple au début quand j'ai commencé à étudier cette villa parce que son nom est indiqué sur la porte, enfin gravé dans la pierre de la Villa Kérylos. Il y a indiqué Arthur Demerlé, 1911. Et je me suis demandé qui était cet Arthur Demerlé. C'est un personnage assez curieux, c'est un Lorrain, mais qui n'a pas eu un grand nom dans l'architecture. Il a été surtout le conseiller et l'expert officiel de la principauté de Monaco pendant toute sa vie. Il avait d'abord été chargé, il est vrai, d'évaluer les dommages de guerre après 70, puis après, il le sera d'ailleurs, après la guerre de 14. Donc c'était plutôt un expert qu'un constructeur. Et la villa Primavera, dite du Sphinx à l'époque, qu'il fait construire, est une villa très classique entre l'art nouveau et l'art déco. Il y a déjà des façades très rectilignes, avec des angles aigus, comme on le verra dans l'art déco, mais il est encore sous l'influence de l'art nouveau qui se termine. On peut dire que l'art nouveau se termine, disons, avec la guerre de 14, et que l'art déco, pour aller vite, commence juste après. Donc, ce de Merlet est un personnage influent, important, et là, il y a une part de mystère. Nous ne savons pas pourquoi il s'est arrangé pour entrer en contact avec Jules Wielorski, qui va être le décorateur de la villa et qui lui donnera alors toute sa mesure dans la villa. Se sont-ils connus à l'école des Beaux-Arts rue Bonaparte en 1900, autour de 1900, enfin entre 1895 et 1900 ? C'est possible. En tout cas, j'ai lu les mémoires de Jules Wielorski grâce aux archives de la famille et je n'ai pas trouvé une seule référence à l'architecte avec lequel Wielorski a travaillé pendant presque 4 ans. Là, c'est un peu surprenant. Était-il brouillé ou au contraire, est-ce que de Merlet avait trop à faire et avait laissé carte blanche à son décorateur, c'est possible. En tout cas, là, il y a une petite curiosité à creuser et peut-être la trouvera-t-on un jour.
Alors, Jules Wielorski semble avoir noué presque une amitié avec Alphonse Lenoir. Alphonse Lenoir a-t-il laissé à son architecte et à son décorateur carte blanche ou est-il intervenu directement dans l'agencement du plan d'ensemble et dans, on va dire, dans l'élaboration du programme décoratif?
Alors, je crois que Lenoir a été très présent. D'abord parce qu'il vit en partie dans la villa du Sphinx, nous le savons par sa correspondance, et qu'il vient souvent, en tout cas pendant l'élaboration des travaux, il vient voir où en sont les travaux. Il a logé Jules Wielorski avec sa famille dans le sous-sol de la villa qui va s'élever, donc pour ce Nancéen hein, qui était Jules Wielorski d'origine polonaise mais qui avait toujours vécu son enfance en Lorraine, c'est pour lui une révélation. La Provence, la chaleur, la mer, les petits restaurants de la côte, c'est une vie extraordinaire. Et certainement cette espèce d'allégria ou de bonheur de vivre se traduit dans la peinture qu'il va faire dans la villa. Mais que Lenoir ait été très lié au programme décoratif, c'est certain. Je pense que les sujets qui ont été choisis par Lenoir l'ont été de manière réfléchie. Et il y a des allusions très précises qui indiquent bien que Lenoir est derrière, que ce n'est pas Jules Wielorski, qui est certainement un grand peintre, mais surtout aussi un bon connaisseur de l'Antiquité grecque. Il dit qu'il a passé des heures et des heures au Louvre à regarder les vases grecs, ça se voit. Jules Wielorski est un bon connaisseur, mais c'est lui qui reçoit les sujets et l'iconographie de la villa. Elle est dictée directement par Alphonse Lenoir.
Alors justement, à quel répertoire de formes et de modèles antiques Alphonse Lenoir a-t-il accès?
Alors, l'Alphonse Lenoir, comme il est extrêmement riche, peut acheter toutes les grandes publications de l'époque. Et quand je dis grandes publications de l'époque, ce sont des grands livres publiés par des érudits allemands, en particulier par Furtwängler et Reichhold, qui ont écrit des volumes immenses qui se trouvent maintenant à la Villa Carilos, qui sont des grands in-folios, mais il y en a 15 qui tiennent à peine sur cette table, et qui contiennent toutes les reproductions de vases grecs que l'on connaissait à l'époque. Et je suis persuadé, même si j'en ai pas la preuve assurée, que Wielorski est allé à la Villa Kyrillos, qui n'est qu'à 10 kilomètres de la Villa de Kabdaï qu'il construisait, et qu'il a consulté ses ouvrages. Et je suis persuadé aussi que les ouvrages allemands qui étaient dans la bibliothèque de Kyrillos étaient connus de Lenoir. Nous n'avons pas la liste des ouvrages de la bibliothèque de Lenoir, mais nous savons par des photos anciennes qu'il avait de grands livres, de grands et beaux livres reliés, qui étaient certainement les grands livres catalogues des vases grecs que l'on avait à l'époque. que nous conservons d'ailleurs dans la bibliothèque de l'Institut, nous aussi, mais enfin qui étaient des collections extrêmement coûteuses que seuls des gens très fortunés pouvaient acquérir. On ne les trouve pas facilement. Ces ouvrages, je les ai cherchés vainement à la bibliothèque de l'École normale supérieure ou même à la Sorbonne. C'était de très beaux ouvrages réservés à une élite fortunée et cultivée.
Alors, pouvez-vous nous dire quelles influences ont pu avoir aussi les trouvailles archéologiques de la fin du 19e et du début du 20e dans l'élaboration de la villa ?
Alors ça, c'est un point important parce qu'il faut replacer ces trouvailles archéologiques dans le contexte de la rivalité qui oppose l'école archéologique française et l'école archéologique allemande. Ça vient de loin, évidemment, disons dès les lendemains de la guerre de 70. Mais les Allemands prétendent à l'époque, les savants allemands et l'intelligentsia allemande en général, prétendent que c'est l'Allemagne qui est la plus capable de comprendre la Grèce. Que nous, Français, nous allons nous occuper de Rome et de l'Empire romain, qui sont des tard venus, et qu'eux ont véritablement une affinité élective, comme aurait dit Goethe, avec la Grèce antique. Et les Français n'entendent absolument pas se laisser damer le pion dans ce domaine, si bien que l'école française d'archéologie à Athènes est en rivalité constante avec l'Institut archéologique allemand de Berlin. Et que les fouilles qui se développent en Grèce avec l'accord des Grecs, qui mènent un jeu, je dirais, à part égale entre la France et l'Allemagne, sont ponctuées de petites guerres à partir des découvertes que les uns font à Olympie. Le grand chantier de fouilles, c'est Olympie pour les Allemands, et que la France fait à Delphes avec les travaux de l'école française d'Athènes à Delphes. Et c'est précisément à Delphes que l'on trouve un certain nombre de sujets que Le Noir va faire copier dans sa villa. En particulier, j'ai parlé du sphinx de Naxos. Le sphinx de Naxos est le grand sujet d'une polémique entre les savants allemands et les savants français pour savoir s'il vient bien de Naxos. Enfin, bon, je n'entre pas dans les détails de cette polémique scientifique, mais elle a un peu défrayé la chronique à un moment où ce genre de sujet paraissait dans les journaux. À l'heure actuelle, une découverte majeure, disons, de l'école française d'Athènes en Grèce ne ferait pas la une, je ne crois pas, du Figaro ou du Monde. À l'époque, si. Donc, ce sont des sujets que l'on entretient. Et comme l'animosité est assez forte entre les savants allemands et les savants français, il y a eu certainement de la part de Le Noir la volonté de montrer qu'il se tenait au courant de l'actualité archéologique.
Très bien. Alors, doit-on considérer la villa du Sphinx comme une reconstitution ou plutôt, comme c'est le cas à la villa Kyrillos, comme une recréation, un témoignage vivant de la pérennité de la culture antique ?
Oui, c'est certainement dans le même esprit que Le Noir a conçu la villa du Sphinx en regardant du côté de la villa Kyrillos. Avec cette différence peut-être que le point de vue de Le Noir est plus influencé par l'urgence de la situation politique de l'époque. En effet, nous sommes à la veille de la guerre et il est frappant de voir que dans les sujets qu'il a choisis, il a choisi essentiellement des scènes guerrières, des scènes ou de guerre, des scènes de meurtre, meurtre des gistes par exemple dans le vestibule, ou même des scènes qui préparent la guerre. Il y a une scène que je trouve très particulièrement, enfin très significative, et qui est la scène où l'on voit Ulysse aller dans la tente d'Achille, qui est assis, et qui, comme vous savez, c'est la colère d'Achille, ne veut pas se décider à rentrer dans la guerre de Troie. Eh bien, là, c'est le moment crucial où on espère que l'on va décider le plus grand des combattants de la Grèce à s'engager dans la guerre. Eh bien, c'est une scène que Le Noir a certainement choisie en fonction de cette imminence de la guerre de 14 que tout le monde sent venir. Et toutes les autres pièces qui comportent des scènes de lutte reprennent justement ces fameux combats entre les Grecs et les Troyens. Au fond, c'est un peu les programmes de l'Iliade. Mais il y a d'autres sujets qui ont été traités par Wielorski sur la volonté de Lenoir comme commanditaire, et que l'on ne trouve pas dans la Villa Kyrillos, qui elle est un peu antérieure, et il est certain qu'il n'y a pas cette menace, ce nuage noir de la guerre à Kyrillos.
Alors néanmoins, reconnaît-on tout de même des influences de la Villa Kyrillos, inaugurée quelques années plus tôt à Beaulieu-sur-Mer?
Oui, je crois qu'il y a non seulement des influences certaines, rien que dans le choix d'une villa à la grecque, mais il y a même aussi des indices qui parlent en faveur d'influences très directes entre Théodore Reinach et Alphonse Lenoir. J'en veux pour exemple une fresque de la Villa Kyrillos, qui est la seule peinture qui comporte une inscription. Et elle représente Sappho, la poétesse grecque Sappho. Donc il y a une inscription en grec sous le personnage de Sappho. Alors que dans toute la villa, tous les personnages qui sont extrêmement nombreux, ils sont au moins au nombre de 80, ne comportent jamais aucune inscription pour les désigner. Eh bien pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que à la même époque, en 1911-1912, Théodore Reinach est le chantre, si je puis dire, de l'œuvre de la poétesse Sappho. Et je suis persuadé que Lenoir a voulu faire, disons, un clin d'œil, en quelque sorte, à l'œuvre de Théodore Reinach, qu'il doit bien connaître, en faisant inscrire l'inscription de Sappho sur un des murs, comme un rappel, en quelque sorte, de l'œuvre de son concurrent, si on peut dire, dans la Villa Kyrillos.
Alors, Lenoir et Wielorski partageaient non seulement l'amour de l'Antiquité, mais aussi une véritable passion pour les chevaux. Est-ce qu'on retrouve ce thème
Oui, alors ça, c'est un thème que l'on retrouve en particulier sur la cheminée du salon bibliothèque de la Villa Primavera, et qui est traité magnifiquement d'ailleurs en marbre, avec des intarses de marbre de couleur, où l'on voit une grande scène de course et de combat de chars, avec des chevaux magnifiquement tracés, magnifiquement dessinés, parce que Wielorski était un grand amateur de chevaux, et Lenoir aussi. Lenoir est un homme qui, quand il était en Normandie, avant de venir sur la Côte d'Azur, avait des haras en Normandie, faisait courir, avait doté de nombreux prix les grands concours hippiques de Caen, de Deauville. Et quand il est venu sur la Côte d'Azur, il s'est inscrit lui-même aussi au concours hippique de la Côte d'Azur. Donc il avait une grande admiration pour le cheval, et ces chevaux, on les retrouve représentés admirablement par Wielorski, qui savait croquer ces figures de grands coursiers. On dit, enfin on le sait par ses lettres, que en particulier Wielorski était, si l'on peut dire, le reporter des courses des Rothschild. Quand les Rothschild faisaient courir au polo de Bagatelle, Wielorski était là et faisait des croquis des plus belles bêtes des écuries Rothschild. Donc oui, il avait cet amour du cheval qu'il partageait avec Lenoir et qu'on retrouve alors dans des scènes de combat et de concours de chars à la grecque.
Vous nous avez parlé d'un programme iconographique avec beaucoup de scènes guerrières à la Villa Primavera, dans le contexte d'avant-guerre, on va dire, ce qu'on ne voit pas à la Villa Kyrillos. Il y a aussi à la Villa Kyrillos le parti pris d'adopter, de toujours associer un programme décoratif à la fonction dévolue à chaque pièce, la chambre, la bibliothèque, l'espace de réception. Est-ce qu'on observe ceci à la Villa du Sphinx ?
On l'observe, mais un peu moins, je dirais. Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que cette villa, je vous l'ai dit, est très grande et qu'elle a été malheureusement un peu vandalisée en quelque sorte en 1952 par un architecte qui avait fait recouvrir toutes les fresques d'un badigeon blanc et que seuls les propriétaires actuels ont fait enlever dans les pièces principales. Mais il y a encore deux étages dans lesquels il y a certainement d'autres fresques que je n'ai pas vues, qui sont encore recouvertes de ce badigeon. Donc je ne peux pas très bien savoir si le programme iconographique de l'ensemble de la demeure gardait ou conservait une relation étroite entre la fonction de la pièce et le sujet. Cependant, on peut dire quand même que dans le vestibule, qui est au fond une sorte d'entrée en matière iconographique de toute la maison, il y a uniquement des scènes de meurtre ou des scènes de guerre, des scènes de combat homérique la plupart du temps, que dans la bibliothèque, il y a les exploits des grands héros de l'Antiquité, Thésée et Héraclès en particulier, mais aussi tout à fait sanguinaire également, et que seulement dans le salon, on trouve alors des scènes plus charmantes, disons plus familières, plus de la vie quotidienne, avec des scènes de gynécée, avec des scènes de jeu, et quelquefois des scènes amusantes. Par exemple, il y a une scène qui était très présente sur les vases grecs, qui était Vénus, ou plutôt Aphrodite, parlons d'Aphrodite en Grèce, Aphrodite essayant de faire rentrer le petit amour ailé dans une cage. Bon, vous voyez ce genre de scène convient peut-être mieux, peut-être, je dirais, avec un salon. Mais je crois que vous avez raison de dire qu'à Kyrillos, la relation entre la fonction de la pièce et le sujet de la décoration est très forte, alors qu'à Primavera, ça n'a pas été très exactement le principe qui a guidé les choix de Lenoir et de Wielorski.
Alors qu'il s'agisse de Rénac ou de Lenoir, comment peut-on expliquer dans le contexte de l'époque cet engouement des élites fortunées pour l'Antiquité et ce désir de bâtir à l'image de l'Antiquité? Est-ce que la démarche de Rénac et celle de Lenoir sont exactement les mêmes?
Ça, c'est un sujet difficile à traiter parce que, je le disais tout à l'heure, je l'évoquais d'un mot, nous n'avons pas de correspondance qui puisse nous dire si Lenoir a discuté avec Rénac de ces sujets. J'en suis convaincu et je pense qu'on trouvera un jour les archives de Lenoir ou les archives de Rénac à Kyrillos indiquant qu'ils se sont vus, qu'ils se sont rencontrés et qu'ils ont discuté de leur même amour de la Grèce et de la reconstitution possible d'une villa à la grecque. Mais la différence, c'est que Théodore Rénac est un véritable savant, un très grand épigraphiste, un des meilleurs hellénistes que nous ayons eu au début du siècle, alors que Lenoir n'est simplement qu'un bon amateur qui sait le grec, qui sait et qui en goûte les plaisirs, la lecture et la traduction. Pensez par exemple que dans sa bibliothèque, les jambages de la cheminée sont couverts de vers de l'Iliade. Eh bien, c'est tout de même un signe. Quelqu'un qui s'assoit devant sa cheminée pour regarder le feu, il a sur les côtés de la cheminée des vers gravés en grec dans le marbre. Ce n'est pas donné à tout le monde. Cela ne veut pas dire qu'il ait été un grand savant, il ne l'était pas, comme Rénac, mais ça veut dire quand même qu'il avait un amour peu commun pour l'Antiquité. D'où cela vient-il? Je pense que avant 14, la bonne société qui envoie, enfin disons les enfants de la bourgeoisie qui vont à l'école, qui vont dans les lycées les lycées d'État, apprennent le grec et le latin de manière extrêmement sérieuse et que, au fond, toute une partie de la société française est baignée dans cet amour du latin et du grec que l'on apprenait et ils en vivent, ils ont ça dans leur imaginaire, si je puis dire. Vous savez, les Italiens parlent toujours de la forma mentis d'un petit français d'avant 14, elle est aussi dans la lumière grecque. Et je me souviens que Madame de Romilly déplorait que justement la guerre de 14 ait été la grande coupure et qu'après 14, cette espèce d'imprégnation que nous avions de la culture classique ait été interrompue ou en tout cas est singulièrement diminuée.
Alors la Villa Primavera s'achève au moment où la guerre éclate. Alphonse Lenoir a-t-il finalement pu réaliser son rêve? A-t-il pu finir sa vie, passer couler de vieux jours dans la maison qui était un peu la consécration de sa carrière et de toutes ses aspirations?
Eh bien non, en réalité non. Lenoir est mort dans le premier jour de 1915, le 3 août 1915 je crois, d'un cancer semble-t-il. Et il n'y a pas véritablement résidé. Il y a résidé un peu avec son fils Pierre Lenoir, qui est un personnage encore plus sulfureux que lui, puisque c'était l'un des amants de Matahari. C'est un long sujet sur lequel je ne veux pas m'étendre aujourd'hui. Mais Pierre Lenoir, le fils, a vécu à la Primavera avec Matahari, le noir n'a pas dû y vivre plus de 2 ans. En réalité, il devait y camper un peu quand les peintures étaient à peine finies et qu'il fallait encore installer les services de la vie quotidienne. Donc, malheureusement, il n'a peut-être pas pu réaliser son rêve. Mais il a quand même certainement vu la totalité des peintures les plus importantes du premier étage, qui sont les plus belles et les plus significatives.
Et quelle a été la destinée de cette villa après sa...
Alors, cette villa a eu une destinée très trouble. Le fils Lenoir a été fusillé pour intelligence avec l'ennemi, pour la part qu'il avait prise dans l'achat d'un journal qui était en principe voué à la défense des intérêts allemands. Donc le fils Lenoir, Pierre Lenoir, a été fusillé à la prison de la Santé en 1919. Immédiatement après, d'ailleurs, Matahari, qui avait été fusillé 2 ans auparavant dans les mêmes conditions. Donc la malheureuse Madame Lenoir, la veuve d'Alphonse Lenoir, s'est retrouvée avec cette grande villa et elle l'a vendue immédiatement. Enfin, pas tout à fait immédiatement, mais peu après, à une société immobilière qui l'a lotie en quelque sorte, qui l'a divisée en appartements. Et c'est pourquoi, à l'heure actuelle, elle est encore divisée en plusieurs appartements. On ne la visite pas, justement, parce que les propriétaires actuels ne tiennent pas du tout à ce qu'on vienne sonner à leur porte pour aller voir ces magnifiques peintures. Mais ils ont eu la gentillesse d'abord de faire restaurer la plupart des peintures qui étaient dans les pièces qu'ils possédaient. Et aussi, ils ont eu l'amabilité de me laisser visiter et photographier cette ville-là. C'est pourquoi j'en ai donné une publication en me disant au moins, elle sera connue de la communauté scientifique.
En quoi révèle-t-elle l'esprit d'une époque ?
Alors, elle révèle l'esprit d'une époque dans la mesure où, bien sûr, d'une certaine façon, elle est dérivée de la Villa Primavera, est dérivée de la Villa Kyrillos. Et elle révèle aussi l'expression d'une époque où on essaye de transposer ce que l'on a appris à l'école dans l'actualité la plus pressante. Je voudrais employer ici une formule d'Antoine Compagnon que je trouve excellente, où il dit que les histoires de la Grèce antique ont été souvent un modèle d'intelligibilité. Eh bien, je crois qu'on pourrait appliquer cette formule au programme iconographique de la Villa Primavera en disant que pour la guerre qui s'annonce, la guerre de Troie a été un modèle d'intelligibilité pour l'époque. Et la conscience de l'époque sent vaguement que, bon, c'est ce que fera Giraudoux beaucoup plus tard, que la guerre de Troie va avoir lieu. Alors, la guerre de Troie n'aura pas lieu, c'est le titre de la pièce de Giraudoux, mais là, on sent très bien que la guerre est inéluctable. Un très beau livre vient de sortir il n'y a pas très longtemps d'un Américain qui s'appelle Christopher Frank et qui l'intitule « Les somnambules et la marche de l'Europe vers la guerre ». Il y a une espèce de marche du destin vers la guerre. Et là, l'histoire grecque, l'histoire de la guerre de Troie, est en quelque sorte une espèce de préfiguration ou une mise en garde. Je dirais peut-être aussi une mise en garde dans l'esprit de gens pacifistes comme Lenoir ou comme Caillaux. Répéter les formules de la Grèce antique et en particulier celle de la guerre de Troie était une manière de mise en garde en disant « Attention, ne recommençons pas ce que les Grecs et les Troyens ont vécu autrefois. Nous le savons par notre culture, nous le savons par Homère, nous le savons par les vases grecs. Ne refaisons pas cette erreur qui va nous amener à la catastrophe. »
Alors, en même temps, on a l'impression que le programme décoratif de la Primavera trahit finalement la certitude de la fin d'un monde, même si il y a des avertissements partout, il ne faut pas commettre les mêmes erreurs. On a le sentiment que quelque chose va s'achever et qu'un tournant va s'opérer dans l'histoire de la civilisation.
Oui, je crois que pas de manière très consciente, mais en tout cas de manière un peu confuse, les gens de l'époque sentent que c'est la fin d'un monde et que l'on va vers une déflagration mondiale, enfin, et qui va entraîner tous les empires à cette hécatombe qu'a été la guerre de 14. Et peut-être essaye-t-on de se raccrocher à une vision de la Grèce qui est à la fois prémonitoire. La guerre de Troie, c'est un peu la guerre qui va avoir lieu. Et elle est d'autant plus stupide, cette guerre, pensent les pacifistes, qu'elle a lieu entre des peuples alliés ou amis, les Troyens et les Grecs, de la même façon qu'elle va avoir lieu, pressent-on, enfin on a le sentiment de cela, c'est sans doute l'idée de Caillaux, qu'elle va avoir lieu entre les Allemands et les Français, et qui ont beaucoup de points à partager, et en particulier cet amour de la Grèce, et cette vénération de la beauté grecque. Donc il y a, si vous voulez, le même amour de la Grèce du côté allemand et du côté français, avec cette idée que on pourrait, à la rigueur, s'entendre sur ce programme commun de l'amour de la Grèce, mais que on va aussi aller au combat et on va vers la destruction, malgré ce front commun et cette image mentale de la Grèce classique.
Alors Henri Lavarine, Jacqueline de Romilly aimait à rappeler la phrase de Théodore Reynac. L'hellénisme est dans le monde des idées ce que le radium est dans celui de la nature. Au contact de sa vitalité, nous pouvons à tout âge nous revivifier et nous rajeunir. N'est-ce pas aussi ce message que véhicule encore aujourd'hui la Villa Kérylos comme la Villa du Sphinx ? Et ces demeures bâties à la Belle Époque en hommage à l'Antiquité grecque ne témoignent-elles pas finalement dans la pierre, on l'a vu chacune à leur manière, d'un message ancré dans notre conscience collective, et je dirais cette fois valable pour tous les temps jusqu'à aujourd'hui ? Pas simplement comme un signe historique, un témoignage de l'histoire du début du siècle.
Eh bien là vous touchez un problème que Jacqueline de Romilly aurait certainement aimé voir développé dans cette radio et sur Canal Académie. Bien sûr, elle en était convaincue que le message que nous envoie la Grèce est de tous les temps et qui est encore valable en 2014 comme il l'était en 1914, c'est certain. Je ne sais pas s'il faut toujours faire ces rapprochements de manière trop systématique. Mais il est certain que le message que envoyait la vision peut-être un peu mythique de la Grèce était un message de paix, de civilisation. Et les hommes de l'époque, que ce soit les politiques comme Caillaux, ou les érudits ou les spécialistes de la littérature grecque comme Reynac ou comme l'était à sa manière un peu Alphonse Lenoir, en étaient aussi probablement convaincus. Mais c'est aussi une occasion manquée. Et comme vous savez, l'histoire est faite d'occasions manquées.
Henri Lavagne, merci. Avant que cette émission ne s'achève, je rappelle que la Villa Kérylos, léguée à l'Institut en 1928, est ouverte au public. J'invite bien sûr tous nos auditeurs à la visiter. Leur signale qu'une exposition y est présentée actuellement jusqu'au 2 novembre, intitulée Méditerranée, mère des dieux, des héros et des hommes. Merci à tous de votre attention fidèle et à très bientôt sur Canal Académie.
Merci.